Bonsoir et merci de suivre Radio Capi pour cette première tribune de la presse de l'an 2014. Deux sujets sont au centre de notre débat. Il s'agit de la situation sécuritaire ayant prévalu en RDC vers la fin de l'année 2013. On a noté que plusieurs sites stratégiques avaient fait l'objet d'attaques simultanées à Kinshasa, au Katanga et au Maniema par des hommes armés qualifiés de terroristes par le gouvernement. Le bilan de ces événements fait état d'une centaine de victimes. Comme deuxième sujet, nous parlerons du débat général à l'Assemblée nationale du projet de budget 2014. Selon le Premier ministre Matata Ponyo, ce budget estimé à près de 8 milliards de dollars accuse un taux d'accroissement de près de 5% par rapport au budget 2013. Trois confrères sont avec nous dans cette émission. Il s'agit de Claude Molicho Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise, RTNC. Bonsoir Claude Molicho.
Bonsoir Kachak.
Nous sommes également avec Albert Omba, journaliste à Tropicana FM, une radio émettant depuis Kinshasa. Bonsoir Albert Omba.
Oui, bonsoir mon frère.
Et nous sommes également avec Jean-Baptiste Badera, directeur général de Canal Futur Télévision au Sud Kivu. Bonsoir Jean-Baptiste Badera.
Bonsoir Kachak.
Bienvenue à tous dans cette émission. Sans plus tarder, la situation sécuritaire ayant prévalu en RDC vers la fin de l'année 2013 et le débat général à l'Assemblée nationale du projet de budget 2014 figurent parmi les sujets qui ont occupé l'actualité cette semaine. Écoutons cette revue de presse que nous propose Guy Maté.
La presse de ce matin est revenue sur la psychose ressentie dans la ville de Kinshasa après les événements du 30 décembre dernier. Forum des As indique que plus d'une semaine après les événements du 30 décembre dernier, les Kinois ne se sont pas encore libérés de la psychose des attaques terroristes du 30 décembre dans la ville. Une sorte de phobie hante les esprits selon le journal. Les quotidiens rapportent que des racontars croisés d'origine diffuse faisant état des coups de feu entendus au centre-ville sont parvenus aux Kinois des autres quartiers jeudi 9 janvier. In fine, tout ce qui s'est raconté a fini par se révéler une rumeur, conclut Forum des As. Et au sujet des attaques du 30 décembre, la prospérité titre affaire Mukungu Goubila et mandat d'arrêt lancé. Le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyege, a répondu jeudi 9 janvier à la question d'actualité du député Germain Kambinga sur ces événements survenus à Kinshasa et dans d'autres villes du pays, indique le journal. Le député MLC voulait avoir des ministres la version des faits, mais aussi en avoir les cœurs nets sur des dispositions prises pour prévenir ce genre d'aventure aux conséquences lugubres, note la prospérité. S'agissant de l'identification des assaillants et des leurs commanditaires, les opérations menées ont permis d'arrêter certaines personnes. Pour ce faire, a-t-il révélé, le gouvernement a mis sur pied une commission dont les conclusions détermineront les degrés de responsabilité des uns et des autres, souligne la prospérité. La présentation du projet de budget 2014 à l'Assemblée nationale a fait également la une des journaux. Budget 2014, Matata réplique ce vendredi, a annoncé le journal La Prospérité. Le Premier ministre Matata Ponyo a présenté ce budget comme le soubassement de la vision de l'émergence du Congo prônée par les chefs de l'État, explique le journal. Après un débat axé sur les aspects sociaux liés au salaire et à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, le Premier ministre doit donner des réponses ce vendredi 11 janvier 2014, a-t-il conclu. Le quotidien du groupe L'Avenir, pour sa part, estime que Matata a présenté un budget réaliste. Tout le monde peut critiquer la modicité du budget, mais il ne faut pas pour autant oublier d'où nous venons, affirme le journal, qui prédit par ailleurs que les députés du peuple, qui savent les efforts que le gouvernement a fournis, vont voter ce budget après que les premiers ministres aient rencontré leurs pertinentes préoccupations. Toujours sur le même sujet, Forum des As rapporte notamment les protestations du député Henri Thomas Lokondo, qui a qualifié les budgets sous examen d'illusoires à l'instar de celui de 2013. Pour les députés, le potentiel fiscal de la RDC peut à lui seul générer plus de 20 milliards de dollars américains.
Merci beaucoup Guy Maté. Claude Molicho, je rappelle que vous êtes journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Oui. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par les obsèques du général Mamadou Ndala. Que vous inspire d'abord cet homme qui était l'un des artisans dans la victoire des FRDC contre le M23 et ainsi que ses obsèques?
Et il faut dire que Mamadou Ndala, dont nous saluons la mémoire aujourd'hui, c'est un exemple. C'est un exemple pour la jeunesse. Un jeune garçon qui est né en 1982, vraiment est mort à fleur d'âge. C'est regrettable, mais Mamadou Ndala, c'est un modèle d'un officier courageux qui a été toujours aux côtés du général Bahouma au niveau de Nord Kivu pour essayer de rassurer la population sur la situation sécuritaire du nord de la province du Nord Kivu jusqu'au sud de la province du Nord Kivu. Mamadou Ndala était toujours en alerte et il a réussi en peu de temps à chasser les rebelles du M23, et tout le monde portait son espoir sur Mamadou Ndala. Et donc vous avez suivi comment la vie d'une personne a amené toute l'unanimité autour de cette personne-là. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été vraiment bien apprécié par son travail dans les rangs des forces armées.
Oui, Claude Moluche, je vous garde encore dans cette émission. On revient tout à l'heure pour le premier thème. Albert Omba, vous êtes journaliste à Tropicana FM, une radio émettant depuis Kinshasa. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par la situation sécuritaire au Katanga, où des violents affrontements ont opposé les FARDC aux combattants Mai Mai lundi et mardi dernier dans le territoire de Kipushi et Pweto. Et ces nouveaux affrontements s'ajoutent bien sûr à plusieurs autres enregistrés dans cette province. Un petit commentaire par rapport à cette situation qui est vraiment déplorable, bien sûr.
Oui, Gatchak, si vous me permettez de souhaiter le meilleur vœu à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Je t'en prie rapidement.
Et puis à mes parents, Papa Oudimba et Maman Meli Akindu. Je voudrais revenir, vous comprendrez que la situation du Katanga commence à inquiéter. Un peu trop. On avait d'abord le problème de Kyungu, Gedeo, dans les triangles de la mort, Pweto, Moba et consorts. Maintenant, ça s'étend un peu plus à travers toute la province de Katanga. En dehors de tous ces maïmaï de Kyungu, on trouve maintenant des Bakatakata Katanga qui sont dans le noyau même de Lubumbashi et qui parviennent même à arriver dans la ville de Kinshasa avec les événements qu'on a connus le 30 décembre dernier. Donc ça commence à inquiéter un peu plus, et il faut qu'on ouvre l'œil, et il est bon pour essayer d'éradiquer ce phénomène d'insécurité.
Merci beaucoup Albert Omba, on revient à vous tout à l'heure. Jean-Baptiste Badera, vous êtes directeur général du canal Futur Télévision au Sud Kivu. Quelle est l'actualité à la une cette semaine dans la province du Sud Kivu où vous êtes?
Merci encore une fois, Kachak. Il faut d'abord préciser que je suis directeur provincial du canal Futur de TV au Sud Kivu et correspondant de l'agence française. Et là, la précision. Et l'actualité, comme vous venez de le dire, est dominée, hein, était dominée également par les obsèques du colonel Mamadou Ndala, avec la ville morte qui a été organisée le lundi dernier par les bureaux de coordination de la civile du Sud Kivu. Une ville morte pour dénoncer cet assassinat et demander que Mamadou Ndala soit élevé au rang de héros pour de nombreuses prouesses réalisées sur le champ de bataille dans le Nord Kivu après autant de mois occupés par le M23. C'est donc là la grande actualité qui a pris cette partie de la République démocratique du Congo, Kachak.
Merci beaucoup Jean-Baptiste Badira. Sans transition, nous passons à notre premier thème de ce soir. Au moins 70 assaillants ont été tués lundi 30 décembre dernier dans différentes attaques survenues à Kinshasa, Lubumbashi, au Katanga et à Kindu dans le Maniema. Selon le porte-parole du gouvernement, sur la seule ville de Kinshasa, 52 assaillants ont été tués et 3 militaires des FARDC, dont un officier supérieur. Dans sa déclaration, le porte-parole du gouvernement Lambert Mende a qualifié les assaillants de terroristes qui ont attaqué 3 sites stratégiques de Kinshasa, la radio-télévision nationale congolaise, l'aéroport d'Ndjili et le site abritant l'état-major général des FARDC en Ngaliema. Rappel de ces événements avec vous, Donat Madimba.
Ces événements se sont déroulés presque quasi simultanément au même moment hier, même si pour beaucoup c'est surtout Kinshasa qui a commencé à en parler en premier vers 9h. Ils sont restés tout de même proches. Vers 9h donc, on a commencé à parler des tirs entendus dans le périmètre de la RTNC dans la capitale, et très vite ces événements ont été confirmés comme se déroulant dans l'enceinte même de ce site. Sont venues ensuite les attaques du même genre, concernant cette fois-là le camp Tchatchi et enfin seulement la même situation à l'aéroport de Ndjili et dans les deux autres villes du pays, à savoir Lubumbashi et Kindu, et à chaque fois il était question des hommes faiblement armés et se réclamant tous d'un homme religieux dénommé Mukungu Bila. Heureusement, l'avant-midi, les échanges se sont significativement calmés jusqu'à totalement s'arrêter les après-midi jusqu'au soir. Le porte-parole du gouvernement avait alors pris la parole à midi, expliquant que la situation était désormais maîtrisée, que les dégâts étaient essentiellement dans les rangs des assaillants, plusieurs assaillants tués, quelques-uns blessés et d'autres encore capturés. Cependant, malgré ce résultat, Kinshasa n'avait pas du tout réussi à retrouver une ambiance normale d'absence de psychose.
Vous comprendrez que cet élément date du 31 décembre dernier, raison pour laquelle notre reporter parlait d'hier. Le bilan définitif des différentes attaques à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kindu, fait état d'un total de 103 morts, selon Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias. Parmi les personnes qui ont été tuées, figurent 95 assaillants et 8 éléments des FARDC. En détail, 55 personnes tuées à Kinshasa, 45 à Lubumbashi, une personne à Kolwezi au Katanga et deux à Kindu. On écoute Lambert Mende dans cet extrait proposé par Michel Kifinda.
Après tout ce qui s'est passé hier à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi et Kindu, le bilan est lourd, très lourd pour notre pays. En effet, à l'état-major général des FRDC à Ngaliema, 16 terroristes ont été tués, 2 terroristes ont été capturés. Un officier supérieur des FRDC a été tué. À la RTNC, 14 terroristes ont été tués. 17 terroristes ont été capturés, parmi lesquels 2 gravement blessés sont aux soins. 2 éléments des FRDC ont été tués. 8 journalistes ont été blessés. À l'aéroport international de Njili, 21 terroristes ont été tués. 5 terroristes ont été capturés. 2 civils, passagers d'aéronefs en attente de décollage, ont été blessés. À Lubumbashi, 40 terroristes ont été tués, 76 terroristes ont été capturés en compagnie de 2 enfants, 5 éléments des FRDC ont été tués. À Kolwezi, 1 terroriste a été tué et 70 autres ont été capturés. À Kindu, 2 terroristes ont été tués, 2 ont été capturés.
C'était Lambert Mende, ministre de la Communication et Médias, qui revenait le 31 décembre dernier sur le bilan de ces événements. Claude Molicho, vous êtes journaliste de la Radio-Télévision Nationale Congolaise. Quelle lecture vous faites de cette situation d'attaque de ces sites stratégiques, puisque la RTNC était aussi victime de cela?
Oui, tout à fait, mais il y a des gens qui disaient à la cité, comme à Kinshasa, comme ailleurs, pour dire que non, c'est du montage, de la mascarade, quelque chose comme ça. Non, c'était sérieux, parce que le ministre vient de le dire, et même, vous avez suivi dernièrement, des questions d'actualité ont été posées au ministre concerné, comme le ministre de l'Intérieur, au niveau du Sénat, comme au niveau de l'Assemblée nationale. C'est pour vous dire que c'est regrettable de vivre des événements comme ça pendant que la RDC est en train de chercher la cohésion nationale. Mais on cherche la cohésion nationale pour essayer un peu d'améliorer les conditions de vie des Congolais, au lieu de retomber encore
mais
dans des bassesses.
Mais Claude Molicho, est-ce que la population n'avait pas quand même droit de se demander comment est-ce que des assaillants peuvent prendre d'assaut une si grande cité, armée des armes blanches, avec tant de facilité?
Oui, c'est logique et c'est rationnel. La population s'est demandée, même les autorités se sont demandées aussi pour dire comment ils sont arrivés jusque-là. Vous savez que ces gens-là avaient foi à leur fétiche, hein, et ce sont des gens qui sont venus avec des gris-gris, et comme à l'exemple de Mai Mai, à l'intérieur, là, on voit dans les Kivu, qui portent des gris-gris, qui viennent, alors que... ce fétiche-là ne peuvent rien faire. Alors, ils ont été butés à une réaction farouche des agents de sécurité. Les forces de sécurité, en peu de temps, ont maîtrisé la situation à la RTNC comme au Kinshasa, comme à l'aéroport, et comme à Kindu, partout ailleurs, Lubumbashi et Kolwezi. C'est-à-dire qu'ils avaient foi à leur fétiche, à leur leader, leur gourou, qui disait que non, avec ça, vous pouvez entrer facilement, vous pouvez faire ceci facilement. Et voilà pourquoi ils sont venus avec des gourdins, des planches et ainsi de suite, des armes blanches.
Mais que revendiquaient ces gens-là?
Bon, ils savent ce qu'ils revendiquent, mais avec leurs messages. Mais on sent bien vraiment que ce sont des jeunes gens qui ont été manipulés. C'est pas s'ils ont été envoûtés, parce que spirituellement, moi, je vois comme si c'était un envoûtement. Un jeune garçon avec un petit gourdin vient à la RTNC ou soit au Kanchachi pour dire que non, je viens renverser le pouvoir. Ça, c'est une illusion, Kachak.
Oui, Albert Omba, ces événements simultanés sont vraiment très louches. Beaucoup de gens ont trouvé cela louche. Les uns parlent même d'un montage gouvernemental, comme bien sûr l'a relevé Claude Moliche, du moins ce qui se dit au sein de la population. Et d'autres même parlent d'une revendication des personnes frustrées. Comment est-ce que vous analysez tout cela?
Pour moi, c'est une confusion totale du fait que le fait que un groupe de gens, avec tout ce qui est comme risque mortel, s'élève, ils attaquent des lieux stratégiques. Donc, ce n'était pas de la blague. Donc, c'était une mission bien précise pour un but bien précis. Quitte aux autorités qui sont en train de mener des enquêtes et de nous illustrer sur ce que ces gens-là voulaient exactement. Mais moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la simultanéité par laquelle ces événements ont eu lieu. Les gens prennent ça pour de la blague, des gourdins, je sais pas quoi, mais comment vous pouvez expliquer qu'un groupe de gens attaque des points stratégiques, trois points stratégiques à Kinshasa, au même moment, à Lubumbashi, à Kolwezi et à Kindu? Qui était derrière eux? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Ça ne doit pas être une revendication d'enfant. Donc, c'est un problème beaucoup plus sérieux. Et vous verrez que, depuis cet événement, il y a une certaine psychose qui plane sur toute la population.
Surtout à Kinshasa.
Surtout ici à Kinshasa. Vous avez vu hier, les gens ont tourné à gauche, à droite, et à tous les sens, alors qu'il n'y avait rien. C'est peut-être le but que ces gens veulent, une certaine diversion, pour préparer autre chose. Moi, c'est que je comprends que derrière toute cette agitation, il y a autre chose qui se cogite. Et si les autorités gouvernementales vont se focaliser sur seulement ce qu'ils appellent des gourdins et des machettes, alors ils vont peut-être passer outre ce qui se prépare. Donc ils doivent prendre les choses au sérieux et voir tout ça. Et une seconde réflexion, les commanditaires, je ne sais pas comment ils peuvent sacrifier autant de gens avec des armes blanches et s'apprendre à des sites stratégiques. Bien sûr, tout en sachant que la réaction de l'autorité ne sera pas vraiment une réaction timide. Et la réaction a été foudroyante. Il y a beaucoup de jeunes gens qui ont perdu de leur vie. Ça, c'est de trois, la proportionnalité par laquelle les armes ont été utilisées. Moi, je vais dans les armes.
C'était pas disproportionné.
Oui, parce que je vois, nulle part on nous a présenté un groupe de gens organisé avec des armes pour un but précis, soit de faire tomber le pouvoir, je ne sais pas quoi, mais de jeunes gens qui sont venus avec des armes blanches et ils ont attaqué des sites stratégiques. Et c'est ça qui laisse un peu un goût amer à l'aventure de ces gens-là. Et voilà. Et la réaction proportionnée, est-ce que les services de sécurité ne pouvaient pas maîtriser ces gens-là? Au moins une grande partie, parce qu'ils n'avaient pas, d'après les rapports gouvernementaux, ils n'avaient pas des armes assez importantes pour une réaction de tel genre. Voilà la question qu'on se pose encore.
Oui, merci Albert Omba. Jean-Baptiste Badera, je rappelle que vous êtes à Bukavu, au Sud-Kivu. Certains observateurs parlent de défaillance des services de sécurité dans ces événements. Est-ce qu'êtes-vous vraiment d'accord avec cela?
Oui, on doit être d'accord avec cette affirmation d'une certaine opinion, parce que, comme l'ont dit les deux confrères, c'est quand même quelque part... difficile à comprendre comment des jeunes gens armés d'armes blanches peuvent arriver à attaquer des sites hautement stratégiques. Quand on est à Kinshasa, on voit toute la ceinture de sécurité qu'il y a autour de la RTNC et il y a lieu de se poser la question comment des jeunes gens peuvent arriver à franchir cette ceinture de sécurité, arriver jusqu'au plateau de la télévision nationale. Des enquêtes sont en cours, selon nos informations, et ces enquêtes doivent permettre de découvrir pourquoi les assaillants qui se sont réclamés du pasteur ou du prophète Mukungubila ont agi avec autant de facilité contre les victimes. Les enquêtes, à mon avis, devraient aussi faire comprendre comment la préparation de ces attaques a échappé à la vigilance de ceux qui sont chargés de veiller à la sécurité du pays. C'est là la question que vous m'avez posée. Parce que c'est quand même incroyable que des gens pas suffisamment armés puissent arriver à s'introduire dans les camps tchatchi, un camp hautement protégé et armé, jusqu'à l'aéroport d'Ndjili. Ce sont des questions qui se posent, mais une autre question tchatchaque a élucidé avec cette sécurité qui va s'emplir actuellement dans plusieurs coins du pays. Et on se pose la question de savoir s'il n'y a pas un lien entre les attaques et les activités. Gédéon Kyungu, de Nord Katanga, de Nord Katanga, et Ferdinand Kazadi, le chef du mouvement Kata Katanga. Je crois, pour une bonne partie de l'opinion, il est important de mettre en lumière les vraies revendications des uns et des autres, car on ne comprend pas. Vous avez parlé de l'insécurité qui a encore une fois prévalu au Katanga il y a de cela quelques jours. Il y a encore une autre insécurité, toujours au Katanga le 1er décembre dernier, vous avez suivi, et des groupes de militaires en patrouille ici. On s'est mis à la terreur le 1er janvier à Lubumbashi, et selon RFI, un militaire avait été tué et 3 civils blessés. Les raisons de ces échanges de tirs sont jusqu'à aujourd'hui inconnues, mais les autorités ont évoqué la suite d'une rixe entre militaires ivres. Voici donc ce qu'il y a comme inquiétude, et comme on peut le voir, l'année 2014 commence en fanfare, et je vois que ce n'est pas encore fini, parce que comme l'on dit, ou mieux comme l'a dit mon confrère de Tropicana, on ne sait pas, est-ce que ça s'arrête là, les jeunes gens qui ont réussi à s'introduire dans des sites stratégiques, est-ce que c'est fini, l'aventure est terminée? Et je ne vois pas aussi, je ne comprends pas comment on peut les qualifier de terroristes, alors qu'il y a quelqu'un qui revendique que ces gens-là l'appartiennent, ils appartiennent à son église, et tout cela...
Mais la personne revendique un ménitus, pas de voix ordinaire.
Oui, tout à fait, mais il est connu. Heureusement que je viens de suivre qu'il y a maintenant un mandat qui vient d'être émis contre lui. Tout cela montre qu'il y a une défaillance. Et même le chef de l'État lui-même, quand il est passé à Bukavu au mois de décembre dernier, il a évoqué le problème au niveau des instances qui s'émancipent un peu trop. Il avait même promis de les remplacer, de les changer avant le 31 décembre 2013. Aujourd'hui, nous sommes le 11 janvier 2014. Ça n'a pas encore été fait, mais je crois que vraiment il y a problème au niveau des services et les autorités sont au courant de cette défense-là. Je crois qu'il y a lieu de revoir parce que, comme l'ont dit certaines autorités, il n'y a pas moyen qu'ils puissent encore innover. Donc, il y a cette défense-là qui est constatée. Il y a lieu de renforcer ces services et de voir comment on peut permettre à la population l'inquiétude et de permettre quand même, avec déjà autant de difficultés sur le plan social, à cette population de voir comment elle peut continuer à se débrouiller et qu'elle puisse bénéficier de ce qu'il y a comme avantage, ce qui est lié à la nature humaine, comme dans d'autres pays kachaks.
Jean-Baptiste Badera, on revient à vous, Claude Molichaud. Jean-Baptiste Badera a dit qu'il faut renforcer la sécurité pour faire face à ces gens de situation, pour que ça ne se répète plus. Quelles leçons alors peut-on tirer de ces différents événements qui ont en fait déstabilisé quand même la quiétude de la population? Aujourd'hui, la population vit dans une psychose. Quelles leçons peut-on tirer de ces événements qui se sont déroulés, bien sûr, la veille du Nouvel An?
Voilà, nous disons que la République démocratique du Congo est aspirée à vivre la démocratie. Et nous sommes déjà en pleine démocratie. Donc c'est révolu cette époque-là de dire que non, on peut venir, on fait un coup d'État, on renverse les institutions. Non. Donc quand on a des revendications, il y a une opposition, c'est légal, c'est même constitutionnel. L'opposition est là, soit institutionnelle, soit non institutionnelle. Elle fonctionne, elle est en train de faire valoir sa position sur de tels aspects de la vie nationale, et c'est normal. Mais pendant que la population vit dans la misère, la pluie noire, venir encore aggraver la situation socio-économique de la population, non. Moi, je pense que ce n'est pas le moment. Il faut aller vers la démocratie, c'est-à-dire que les institutions légalement établies, et les méthodes constitutionnellement exigées pour revendiquer certaines choses, s'il faut les revendiquer. Donc, c'est révolu cet aspect. Nous sommes engagés à aller vers la démocratie et la RDC est appelée à devenir un pays émergent d'ici 2030 et à participer à la concrétisation du projet des États-Unis d'Afrique d'ici 2034. Donc, il ne faut pas vivre encore dans la misère, même avec le budget qu'on est en train d'examiner.
Mais j'y reviendrai, bien sûr. C'est minime, c'est minime. Le deuxième sujet de
ça,
notre
tout ça, c'est, il faut prendre ça dans la globalité. La sécurité est liée aux moyens, la vie sociale est liée aux moyens, tout est lié aux moyens mis à disposition pour essayer de faire face aux défis de l'heure. Et le défi de l'heure, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Heureusement que vous dites qu'on y reviendra lorsqu'on va parler du budget.
Oui, Albert Omba, que faut-il avoir pour prévenir ces situations en RDC? Bien sûr, Claude Molich a déjà commencé à donner quelques éléments d'information.
Ce qu'il faut, c'est donner ça à cette situation une importance capitale. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'on reste distrait, qu'on parle de ceci, de cela. Ça. On a vu le cas de Boudou Diakong. Et quand le gouvernement s'est dit, je m'occupe de Boudou Diakong, on n'en parle plus. Pourquoi aujourd'hui les Bakatakata, ou tout ce qui est comme ce genre de Mukumbi, les consorts, on ne peut pas s'en occuper. Le gouvernement a les moyens. Donc, c'est question de se concentrer. Quand il y a une insécurité qui surgit, on se concentre. On a vu avec la guerre de l'Est, quand le gouvernement... divaguer à gauche, à droite, ça ne marche pas. Mais quand ils ont mis tout le paquet, on a mis fin à la guerre, du moins pour les M23. Il reste maintenant les ADF Nalou, qu'il faut traquer vers le nord. Donc, ces questions, quand on a dit aujourd'hui, on s'occupe de Kuluna, on a mis le paquet. Je crois qu'on va finir avec le Kuluna. Les gens, j'ai entendu dire un monsieur de la majorité qui disait que le fruit est pourri à l'intérieur. Il y a des insectes qui rongent le fruit de l'intérieur. Ah, ça, c'est très grave. Quand quelqu'un de la majorité soutient hier, dans cette même chaîne, que le fruit est rongé de l'intérieur, ça veut dire que le mal ne vient pas de l'extérieur. Donc, il faut que la majorité revoie sa boutique et revoie tout ce qu'il faut, ses stratégies.
Et l'opposition aussi.
Je dis la majorité, parce que l'opposition a ses faiblesses, a ses problèmes, c'est l'extérieur. Mais la majorité, parce que quand on dit que le mal vient, le fruit est pourri de l'intérieur, c'est-à-dire le mal vient au sein de la majorité. Donc c'est la majorité qui doit tout faire pour gérer ses problèmes et mettre fin à tous ces dégâts-là, parce que c'est la majorité qui gère aujourd'hui la chose publique.
Ok, merci beaucoup Albert Omba. Jean-Baptiste Badera, nous allons terminer ce premier sujet avec vous. Quelles leçons peut-on tirer de ces événements qui ont paralysé le pays la veille du nouvel an et que faut-il pour prévenir ces genres de situations en RDC?
Oui, la leçon à tirer, Kachak, c'est qu'il faut d'abord dire que la cohésion annoncée l'année passée n'est pas encore là. Vous remarquez avec moi que toute la situation qu'on est en train de vivre aujourd'hui, tout facilement, ce que cette cohésion tant souhaitée n'est pas encore là. Donc, il y a lieu de voir comment on peut se mettre en pratique, d'abord les résolutions sur la concertation nationale. Cette concertation, comme vous le savez, visait justement à amener cette cohésion nationale. Mais également le fait que, il y a d'autres, compatriotes qui revendiquent encore, d'autres dialogues pour qu'on puisse arriver à cette vraie cohésion. Et comme il y a maintenant des problèmes, Albert Omba vient de dire ici que, on avait eu à mater le Boundou Diakongo, on a fini avec le M23, mais pourquoi ne pas finir complètement avec ce qui se passe Katakatanga, Adef Nalu? C'est tout ça le problème. Et moi je pense que la solution ici, on dit que gouverner c'est prévoir. Il ne faut pas attendre quand il y a des problèmes qu'on puisse maintenant penser que non, il faut mater, mais il faut prévenir, il faut prévoir. Il y a les problèmes aussi, ces services, on dit qu'ils sont défaillants, mais il faut voir avec quels moyens ils travaillent. Les services de renseignement de notre pays, ils n'ont pas les moyens de leur politique. Quand on voit comment ils travaillent, je pense qu'il faut les remercier parce que ce n'est pas possible de travailler dans telles conditions et quand même réussir à faire son travail comme il faut. Donc, à mon avis, la leçon à tirer, c'est qu'il faut d'abord bien encadrer les services de sécurité. Quand ils n'ont pas de moyens, je ne pense pas qu'ils puissent vraiment faire un bon travail. Et je pense également qu'il faut prévenir, il ne faut pas attendre qu'il y ait des situations lamentables comme celles que venons de vivre et celles qu'on continue encore à vivre. À Kinshasa, hier, c'était la panique, comme vous venez de le dire. Il faut voir comment prévoir et arriver quand même à mettre fin à l'impunité qui continue. Parce qu'il y a également la bénédiction de certaines personnes censées pourtant protéger la population et qui sont aussi quelque part responsables de ce qui nous arrive parce qu'ils ne travaillent pas comme on le souhaite, ou mieux, ils ne mettent pas le moyen nécessaire pour que les agents commis à la sécurité puissent travailler comme il se doit avec professionnalisme.
Sans transition, nous passons à notre second sujet de notre émission. Le Premier ministre a présenté officiellement mercredi le projet de loi des finances 2014 à l'Assemblée nationale. Ce budget s'élève à près de 8 milliards de dollars américains. Il connaît un taux d'accroissement de près de 5% par rapport à celui de l'année passée. Un débat général a suivi la présentation de ce budget. Certains députés le jugent réaliste vu le niveau de production du pays. Pour d'autres, ce taux d'accroissement n'a aucune incidence sur le vécu quotidien de la population. Yves Molima.
Ce projet de budget sur le plan économique, a admis le Premier ministre Matata Ponyo, reste confronté au défi urgent de vaincre la modicité des disponibilités budgétaires et d'intensifier les efforts de mobilisation des ressources en vue de réaliser la vision de l'émergence du Congo. De ce fait, le député national Bombelo Sanda Patrick pense que ce budget est réaliste.
Le budget est plus réaliste. Nous passons que dire que nous devons avoir un budget de 20 milliards pendant que la production ne suit pas. C'est vraiment une utopie.
Mais pour d'autres, le budget 2014 devrait être requalifié. Quant au taux de croissance dit élevé, ils pensent que son incidence n'est pas perceptible. C'est le cas de Henri Thomas Lokondo.
S'il y a un taux d'accroissement, mais ce taux ne se réalise pas, c'est un taux d'accroissement non inclusif dans le bien-être de la population. Le président de la République l'a dit plusieurs fois et nous également. Ce taux-là, il est encore illusoire.
Notons qu'à l'issue de ce débat général, le Premier ministre a 48 heures pour répondre à toutes les préoccupations des députés nationaux.
Rappelons que c'était aujourd'hui vendredi que le Premier ministre devrait répondre aux préoccupations soulevées mercredi dernier par les députés autour de cette question du budget. Claude Molichaud, quelle analyse vous faites de ce projet de budget 2014 présenté par le gouvernement et dont le montant global est estimé à 8 milliards de dollars?
Bon, 8 milliards de dollars, vous-même, vous dites 8 milliards de dollars pour un pays aussi vaste comme la République démocratique du Congo. 11 provinces et des grandes provinces, et bientôt 26 provinces. La RDC est appelée à devenir un pays émergent d'ici 2025 ou 2030. Et la RDC est appelée à impulser le projet de création des États-Unis d'Afrique. Je pense que ce n'est pas un budget réaliste pour le Congo. On dit qu'on ne peut pas mobiliser les recettes. Non. Non. Il faut pas, moi je dis toujours qu'il ne faut pas opposer le chef de l'État à son peuple. Le peuple a élu le chef de l'État et le peuple attend beaucoup, beaucoup du chef de l'État. Et c'est en termes de moyens qu'on doit mobiliser pour ce peuple-là qu'il y aura confiance entre le peuple et son chef. Mais là, j'ai comme l'impression que l'Assemblée nationale et le gouvernement veulent opposer le chef de l'État à son peuple. Et ce qui n'est pas normal. Avec un budget de 8 milliards de dollars, là, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre quel problème? Alors que nous avons des défis à relever sur le plan éducationnel, sur le plan infrastructure, sur le plan santé, donc sur tous les plans, rien ne marche. Et il faut avoir le courage de le dire. Le gouvernement n'est pas une autorité budgétaire. Le gouvernement propose, parce que lui, il peut rester avec des réserves, ce n'est pas le problème. Parce qu'au ministère du budget, il y a toujours des réserves qui restent chaque année. Et on ne le dit pas assez. Mais l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, quand elle accepte, parce qu'on a de la majorité, on accepte 8 milliards, ou on peut ajouter 1 milliard, ça fait 9, pour dire qu'on soumet ça à la pression du chef de l'État. Non. Et le peuple est en train d'attendre beaucoup au chef de l'État. À la fin de l'échéance, à la fin du mandat, c'est le chef de l'État qu'on va voir que non, il n'a pas réalisé tel projet et ça va retomber sur le chef de l'État. Donc il ne faut pas opposer le chef de l'État à son peuple. Et c'est le jeu qui est en train d'être joué à l'Assemblée nationale, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Moi, je dis que ce n'est pas un budget réaliste. Le Congo a la capacité de mobiliser les moyens conséquents pour faire face aux défis de l'heure du développement, parce que regardez tout autour de nous, c'est pas moins de 10 milliards, de 10 milliards de dollars comme budget dans des pays où il n'y a pas assez de ressources. Et nous avons la capacité de démobiliser, nous avons des ressources nécessaires. C'est question de canaliser les recettes vers le trésor et éviter le coulage, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils appellent le coulage des recettes. Et c'est ce que j'ai dit que le budget là, parce que l'année passée, vous vous souvenez, Katia, que le chef d'État a renvoyé le budget, toujours en rapport avec les défis de la défense nationale. Et ces défis-là persistent jusqu'aujourd'hui. Parce qu'il faut défendre le pays. Aujourd'hui, le Congo ne restera pas tranquille. Il y aura toujours les velléités de déstabiliser ces grands pays. Et il faut toujours avoir les moyens de réagir rapidement et de faire face à toutes ces velléités de nos pays voisins, des Occidentaux, qui cherchent toujours à occuper le Congo. Et sur le plan interne, la population, je reviens toujours sur ça, la population attend beaucoup du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, parce qu'il a été élu en 2011. Et si on ne le fait pas, c'est très dangereux. C'est dans le budget qui est le miroir, le budget qui est le reflet des prévisions qui sont allouées à ces besoins-là, à ces défis-là à relever, qui doivent être, on doit marquer des montants qui sont réalistes pour faire face à tous ces défis.
Alvaro Mba, une réaction par rapport à la position de Claude Molichaud, qui estime que ce budget est insignifiant. Le peuple attend beaucoup du gouvernement et du chef de l'État, qu'il faut canaliser en fait les recettes de l'État et éviter le coulage des recettes. Une petite réaction par rapport à cela.
Oui, avant de réagir, si vous me permettrez, Jacques,
je vous en prie,
que je revienne juste tout petit peu pour vers le sujet précédent. Vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse sécuriser le pays. Je crois qu'on devait ajouter aussi l'élément de la gestion de l'info. Et vous verrez que quand le gouvernement a agi 2-3 heures après les attaques de 11 pour donner l'information vraie, ça apaisait un peu les tensions. Et s'il pouvait faire de la sorte, ça pouvait aller. Maurice a raison, parce que le budget de 8 000 $, c'est 8 milliards plutôt, c'est pratiquement dérisoire dans le sens parce qu'il n'y a aucun effort qui est fait pour essayer d'augmenter les recettes, parce qu'on ne peut pas parler du budget sans pouvoir parler des recettes. Est-ce que les régies génératrices des recettes ont été mobilisées cette année pour qu'on puisse augmenter sensiblement les recettes? C'est ça la grande question. Et toutes les régies ont fait leur rapport pour dire que non, ils n'ont pas pu réaliser les recettes. C'était dû à quoi? C'est ça la grande question.
Mais on peut canaliser les recettes, mais on doit aussi savoir orienter les dépenses, de sorte qu'on fasse les dépenses utiles. Pensez-vous vraiment qu'aujourd'hui, on arrive à réaliser cela?
Normalement, non, parce que nous avons un problème sérieux au niveau des dépenses. Si les recettes ne sont pas canalisées, mais au niveau des dépenses, le problème est sérieux. On résout un problème, je prends le cas, parce que je reviens toujours pour parler du problème de social. Quand on résout le problème social, vous allez voir que on résout à moitié ou pour une portion seulement. Et les autres catégories, on laisse tomber. Et c'est ce qui couvre. Nous parlons de la cohésion politique, mais on ne parle pas de cohésion sociale. Tout ce qui est comme événement aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas de cohésion sociale. C'est-à-dire quoi? Il y a disparité entre les avoirs des individus qui sont censés recevoir l'argent de l'État congolais. Vous verrez que vous prenez un député qui n'avait jamais atteint 1 000 dollars depuis l'indépendance jusqu'à une certaine année. Il va dans les 8 000, 10 000 dollars. Pendant que un fonctionnaire de l'administration publique ne peut pas atteindre 100 dollars ou 200 dollars. Vous pouvez vous imaginer, le pays ne marchera jamais si on ne paie pas son geste. Quand vous dites ça, on vous dira des histoires macroéconomiques et microéconomiques. Ce n'est pas les microéconomiques.
Mais que faut-il alors pour équilibrer cela?
Ce qu'il faut, c'est de répartir, voir les choses telles qu'elles sont. Vous prenez des engagements avec la Banque mondiale pour assainir le milieu. C'est-à-dire quoi? Vous mettez, parce qu'il y a plus de 30 ans que les gens ne sont plus allés à la retraite. Donc il y a un grand nombre de gens retraitables mais qui sont là. Et vous les payez. Mais si vous pouvez arriver à les mettre à la retraite et prendre un effectif assez important, un effectif que vous pouvez maîtriser et vous le payez convenablement. Il n'y aura même pas de maïmaï. Vous verrez que les choses vont aller. Il n'y aura pas de psychose parce que les gens sont payés. Personne ne va prendre les armes pour aller se battre ou prendre des t-shirts avec des armes blanches pour aller attaquer les sites stratégiques. Parce qu'il n'y a pas de cohésion sociale. Donc la répartition équitable, équilibrée des ressources, des recettes doit être aussi équitable et équilibrée à travers toutes les couches, selon les proportions qui doivent aller de 1 à 10. Donc, le plus grand. Si un député aujourd'hui a 10 000 dollars, le fonctionnaire le plus bas doit avoir 1 000 dollars. Tant qu'on n'a pas atteint ce niveau-là, on peut parler, parloter, on peut dire n'importe quoi, on peut utiliser n'importe quel génie économique ou je ne sais pas, tout ce qui est comme théorie financière, on ne résoudra jamais le problème.
Jean-Baptiste Badera, vous êtes à Bukavu, au Sud-Kivu. Albert Mba vient de dire qu'il faut qu'il y ait la répartition équitable des recettes et des dépenses entre la population et les dirigeants. Un petit commentaire, bien sûr, par rapport à ce problème que nous avons devant nous du budget de la RDC, qui aujourd'hui est évalué à 8 milliards de dollars, seulement par rapport aux différents défis que doit faire le gouvernement ou bien la population.
Samuel, c'est justement ça le grand problème que nous avons en République démocratique du Congo. Et ce sont ces genres de budgets qui sont, entre autres, parmi les problèmes qui sont à la base de toute cette sécurité dont on est en train de parler dans notre pays. Imaginez-vous un budget de 8 milliards. Et comment est-ce que cela sera réparti? parce que je ne sais pas quelle est la part qui sera allouée au service de sécurité, parce que ce sont des services-là, comme on vient de le dire tantôt dans le thème précédent, qui sont censés être les premiers informés. Et pour être informé, il faut avoir le moyen, vous savez, des journalistes, même nous, pour avoir l'information, il faut avoir suffisamment de moyens sur le terrain. Donc, c'est là le grand problème, parce qu'avec ce grand budget, les choses ne vont pas s'améliorer sur le terrain. Et puis, comme l'a dit Mauricio, il y a un problème, parce qu'avec ça, ça va mettre la population en difficulté avec les autorités. Je reviens récemment d'un voyage de presse dans le territoire de Fizi, un territoire assis sur une mine d'or. Ça met, tu t'imagines, dans ce territoire-là, les cadavres sont transportés sur une moto, alors que c'est un territoire assis sur une mine d'or. Dans cette mine d'or, c'est une véritable mafia. L'argent disparaît dans les poches de certaines personnes qui sont pourtant censées les canaliser au niveau du gouvernement provincial. Donc là, il y a une évasion fiscale terrible dans cette partie de la province. Et quand le Premier ministre dit que cela, et donc sur le plan économique, il faut relever les défis, intensifier les efforts des mobilisations en vue de réaliser la vision de l'émergence du Congo, je me demande comment cela sera fait, parce que est-ce qu'il y a vraiment des mécanismes qui sont mis en place pour que les recettes soient bien canalisées? Est-ce qu'il y a la traçabilité par rapport à tout ça? Donc c'est un problème. Encore une fois, c'est l'impunité qui est à la base de tout ceci, parce que beaucoup de situations malheureuses avec des gens qui détournent sont connues, mais on constate qu'après, ils ne sont pas punis. Et avec un budget aussi modique comme celui-ci, c'est pas mal vraiment comment les choses vont s'améliorer cette année 2014. Et vous savez, vous avez suivi les autorités pendant la guerre du Nord Kivu contre les M23, beaucoup de postes étaient arrêtés. Les autorités avaient donné comme motif que non, parce que tout l'argent était alloué à l'armée pour mettre fin à la guerre qu'il y avait dans le Nord Kivu. Et voilà, encore avec ce budget, je me demande quelle la part qui sera réservée à l'armée pour défendre comme il se doit le pays, quelle la part sera au service de sécurité, quelle la part des enseignants. Donc, c'est impossible que ce budget soit équilibré, parce que déjà, ça, c'est en voie d'être voté. Et malheureusement, Albert Omba, je vois mal comment ça sera équilibré comme vous le prétendez, mais c'est entre autres encore ça, la cause, parmi les causes de ce qu'on a comme insécurité. Parce que quand un budget est suffisant, quand c'est bien réparti, comme l'a dit Maurice, il n'y aura pas de maïma, il n'y aura pas des gens, des groupes d'amis qui se créent. Tout ça, c'est le chômage, c'est le manque d'emploi, c'est la misère. Et quand si les jours qu'on mettra fin à cette misère, on verra que la sécurité sera meilleure qu'aujourd'hui, Samuel.
Jean-Baptiste Badera, merci. Je considère cela comme votre conclusion, puisque nous sommes déjà à la fin de l'émission. Claude Molicho, en deux ou trois mots, que faut-il pour doter la RDC d'un budget consistant?
Pour doter la RDC d'un budget consistant et réaliste par rapport à son immensité et à ses défis, il faut dépolitiser les budgets ou les processus de vote ou d'élaboration du budget. Il faut le dépolitiser parce qu'on a déploré cette politique depuis la Deuxième République. On est en train de politiser le budget de l'État. Pourquoi? On a déploré ça en Deuxième République, mais ça continue jusqu'à aujourd'hui. Il faut voir la réalité sur le terrain face aux défis. Nous avons des partenaires qui nous aident, mais nous devons compter sur nos propres moyens. Si on parvient à dépolitiser le budget, avec dans les commissions de PAJ ou les ministères du budget, où on s'enferme quelque part, on dit non, il faut minorer les recettes, il faut faire ceci. C'est ça la politisation du budget. Et si on continue avec cette politique décriée depuis la Deuxième République jusqu'à aujourd'hui, on ne marchera pas, ça ne va pas aller, et le Congo ne sera pas un pays émergent d'ici 2025, d'ici 2030. C'est ça ma façon de voir les choses.
Merci beaucoup, Claude Molicho. Albert Omba, nous terminons avec vous, bien sûr. Que faut-il pour doter la RDC d'un budget consistant?
C'est pour aller dans le même sens que Mauricio. Au lieu de parler de politiser, moi je veux parler de ne pas calquer le budget. Donc ce sont des budgets qu'on prend quelque part, on calque, on vient, on discute au Parlement, qu'on n'exécute jamais. Il faut aller sur le terrain, voir les réalités et faire le budget en fonction de ça. Et il faut introduire tout ce qui est comme recettes minières. Il y a beaucoup de productions minières qui ne sont pas prises en recettes. Et tout ça, ça part comme ça à l'air. Donc, dépolitiser le budget n'est pas s'occuper de calquer, prendre des papiers, on met des chiffres et puis non, aller sur le terrain, faire un budget réaliste et les choses vont aller à l'avant.
Merci beaucoup Albert Omba. Je rappelle que vous êtes journaliste à Tropicana FM, une radio émettant de Kinshasa. Je recevais également Claude Moliche, journaliste à la Radio-Télévision nationale congolaise, et Jean-Baptiste Badera, il est directeur provincial de Canal Futur au sud de Kivu. La partie technique de cette émission était assurée par William Lungamba. Guimaté était à la réalisation. Samuel Kachak vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebujangui. La rediffusion de cette émission, c'est demain matin à 4h15 de Kinshasa. Merci et bon week-end sur les antennes de Radio Okapi.